Rebonjour, bonjour à tous. Nous allons donc parler pour reprendre le titre de cette table ronde, donc d'une technologie de l'invisible, ces nanosciences qui révolutionnent notre quotidien, peut-être. Donc, autour de moi, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent, au contraire de moi. Absolument pas, me souffle-t-il. Donc, Alain Damasio, je ne vais pas vous faire l'outrage de vous le présenter. Vous pouvez le connaître. On a Thomas Day juste à côté, auteur protéiforme, qui a à peu près abordé énormément de gens, de lieux différents, et à qui on a tous une dette éternelle pour son travail d'éditeur. Mais si, il ne faut pas... Et Patricia Chenvier.
Pascal,
je savais que j'allais me tromper sur le prénom, c'était obligatoire. Qui donc travaille au CEA, en électronique moléculaire, travaille notamment sur les nanotubes de carbone, et qui, dans les gens qui sont devant vous, doit être à peu près la seule à savoir effectivement de quoi on parle aujourd'hui. C'est à peu près la seule qui a eu la chance de pouvoir tripoter un synchrotron à Cornell. Parmi les sons qui sont sur la table, et tripoter un synchrotron, c'est quand même sympa. En tout cas, ça sonne très bien. Moi, pour en tant que lecteur de SF, ça me fait rêver. Et donc, j'ai envie simplement de commencer comme ça. On a tous à peu près, en tant que lecteur de SF, des images de ce que peuvent être effectivement les nanosciences. Ça fait déjà pas mal d'années en fait, que notamment le cyberpunk projette sur les nanosciences, sur des applications ou autres. Donc, c'est quelque chose qui éveille notre imaginaire. Mais le sujet de cette table ronde, c'est qu'elle révolutionne notre quotidien. Donc, j'ai envie simplement de commencer par ça, qu'on sache à peu près de quoi on parle. Les nanosciences aujourd'hui, déjà, que sont les nanosciences? Pour qu'on parte moins idiot. Et est-ce qu'effectivement, les nanosciences révolutionnent notre quotidien?
Non, alors, c'est un vaste sujet. Les nanosciences, c'est un... Je pense que c'est pas vraiment une science, c'est-à-dire c'est une bannière, plutôt, pour des scientifiques, des scientifiques de différents horizons. Donc moi, je suis chimiste, mais il y a aussi des physiciens, des biologistes qui travaillent sur des sujets qui peuvent n'avoir absolument rien à voir entre eux. Donc ça peut être pour des applications pour la santé, de l'électronique de pointe, celles qui sont dans les téléphones portables que les électroniciens rêvent pour vous dans 10 ans, ou bien des gens qui rêvent des moteurs qui seront dans vos voitures quand vous n'aurez plus de pétrole. Donc, par exemple, ces gens, évidemment, travaillent sur des sujets qui sont complètement indépendants, mais ils utilisent des outils qui sont communs. Et donc, ils se retrouvent éventuellement à avoir des besoins communs sur certaines machines. Hein, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on parle d'étudier des objets très petits, donc de la taille nano, c'est-à-dire le millionième d'un millimètre. Et ces objets, il faut bien voir que plus ils sont petits, plus la machine dont vous avez besoin pour les étudier, les observer, doit être grosse. Voilà. Donc quand c'est une machine très grosse, ben, évidemment, ça coûte très cher. Et donc on se met ensemble, c'est une sorte d'association pour ce type de moyens. Voilà. Alors donc... Les nanosciences, du coup, c'est très protéiforme, c'est-à-dire que c'est encore pire que la science-fiction, c'est-à-dire que si vous mettez si vous mettiez tous les gens qui racontent des choses plus ou moins inventées dans l'édition, et que vous les mettez ensemble, ça ferait quelque chose comme les nanosciences. Donc, c'est pas vraiment un objet existant. Hein. Bon, savoir ensuite si ça révolutionne notre quotidien. C'est pour l'instant la plupart des objets nano ou des études à l'échelle nano se portent sur des choses qui sont très 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 loin de l'application. Il y a une petite partie qui est déjà en commercialisation. Soit parce que ça l'était déjà avant, donc par exemple une grande partie des objets qu'on étudie sont des objets qui existaient avant, donc des protéines par exemple, des choses qui sont des constituants de votre corps. Ils existaient déjà avant, ils étaient déjà de cette taille-là. Juste, ça s'appelle nanoscience maintenant parce qu'on a des nouveaux outils pour les étudier. Ou alors, par exemple, des objets comme le savon pour se laver, ça fait des petites particules. C'est pour ça que c'est, l'eau est laiteuse quand on se rince, par exemple. Donc, ces petites particules qui rendent l'eau laiteuse, eh ben, ils sont de cette taille-là, voilà. Donc ça existait avant, hein, le savon, c'est pas nouveau. Mais il y a aussi des choses plus nouvelles comme l'électronique des puces de téléphone, par exemple, ou les transistors qui sont les constituants, les plus petits constituants de l'électronique, sont de plus en plus petits, donc ils sont passés en dessous du micron et ils se rapprochent de la taille nano. Donc ça, c'est ce que vous avez maintenant dans les téléphones les plus récents sont de ce genre-là.
Et parce que si, dans ce que je me souviens, moi, en fait, un des points de départ, on peut dire, d'application nanotechnologique, il y a IBM écrit en atome de xénon, si je me rappelle bien.
Oui, alors pour arriver à écrire IBM en atome individuel sur une surface d'or ou de mica, donc c'est des atomes, l'ensemble du dessin serait grande comme ça par rapport à la Terre, si on compare le dessin par rapport à nous, hein, donc ça nous donne un peu une idée. Et pour pouvoir le faire, cet objet-là, ils ont construit une machine, une énorme machine sous vide qui aurait rempli l'estrade ici, hein, à peu près grande comme ça, voilà, avec un tube à vide grand comme ça, avec des énormes pompes et des tubes de partout, hein, pour arriver à déplacer, et puis en y passant plusieurs semaines, à déplacer les atomes un par un pour arriver à dessiner IBM. Hein, voilà. Donc, c'est pas de la technologie, là, c'est une expérience qui a été faite juste pour l'image et pour faire du rêve.
D'accord. Et donc là, pour l'instant, à ce que j'ai entendu, c'est de l'anti-rêve presque. On serait sur une simple poursuite de la logique de miniaturisation actuelle qui est complètement rentrée dans nos mœurs et on en a tous dans la poche.
Alors, mais si vous invitez un scientifique à la table, et le scientifique, c'est l'anti-rêve.
Ouais.
C'est mon métier. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour vérifier chaque point. Et que à la conclusion, j'ai des arguments pour chaque chose. Et sur chaque argument, j'ai un pourcentage de certitude. Donc, c'est pas du tout du rêve, au contraire. Et le rêve, il faut que ça aille vite, sinon c'est pas drôle. La science, ça va très très lentement. Voilà. Donc, forcément, voilà. La part de, c'est sûr que ce que nous faisons est porteur de rêves. Hein, mais vos rêves vont forcément dépasser de très très loin ce que nous on peut vous faire. Et c'est aussi pour ça que nous avons envie de travailler. Nous avons aussi envie de travailler parce que nous aussi ça nous fait rêver. Mais quand on arrive au labo, il faut le laisser au porte-manteau et mettre la blouse à la place.
Donc avec des nanotubes de carbone, c'est pas demain qu'on a un ascenseur spatial et des nanochirurgiens dans le sang?
Certainement pas, mais on pourrait avoir des choses dont personne ne rêve. C'est la partie difficile, c'est-à-dire nos rêves sont portés par ce que nous connaissons et par les petites idées de choses nouvelles qu'on peut avoir. Nous, on est là pour faire de l'innovation, c'est-à-dire faire les objets nouveaux que vous aurez demain. Par exemple, moi, je travaille sur les nanotubes de carbone pour l'électronique. L'électronique dont je rêve avec ces nanotubes de carbone et qui sera peut-être développable dans les quelques prochaines années, c'est un téléphone portable que vous roulez pour mettre dans votre poche, ou bien alors un objet électronique qui est intégré dans tout votre vêtement, ou des choses, ou bien alors une gestion de votre maison que vous pouvez peindre sur le mur, et puis qui se connecte électriquement et qui fait ce dont vous avez besoin, par exemple nettoyer l'air ou changer l'éclairage, etc. Donc c'est des choses, voilà, ce sont mes idées qui sont déjà très différentes de ce qu'on peut imaginer, mais probablement avec les petits composants que je vais réussir à faire, d'autres, des ingénieurs, et puis nous tous, nous allons imaginer d'autres façons de les utiliser qui seront peut-être très très loin de ce que j'imagine moi-même.
Enfin, j'ai pas besoin de pousser beaucoup pour avoir du rêve, du coup, quand même.
Oui, bien sûr.
C'est quand même porteur. Parce qu'après, bon, si on a l'anti-rêve à gauche, après, j'ai quand même des producteurs de rêves des deux côtés. Hein. Donc, d'un côté, je pense évidemment plutôt à l'école des assassins, donc avec l'augmentation des capacités par nanotechnologie. Et en me tournant directement à ma gauche, j'ai plutôt, ce que ça m'évoque plutôt, c'est des applications beaucoup plus cauchemardesques de la nanotechnologie. Donc quand on parle du fait de la fameuse devise de Clark, qu'une technologie suffisamment avancée en fait, aurait, semblerait à un peuple qui ne la maîtrise pas comme de la magie, on a quand même cette idée d'une nanotechnologie qui nous fournit de la technologie invisible. Ou en tout cas... Oui, c'est d'ailleurs le titre de cette table ronde. Et là, c'est vers les auteurs que j'ai envie de me tourner. Parce que vous avez tous les deux déjà exploré ce genre de choses, de différentes manières. Et donc, j'ai envie de savoir comment mes deux producteurs de rêve rêvent notre avenir nanotechnologique.
Ouais, j'y vais. Bon. C'est ce que je connais des nanotechnologies, c'est surtout ce que j'en ai lu dans les livres de science-fiction. Donc c'est forcément quelque chose de fantasmé. Moi, dès qu'une technologie comme ça, nouvelle, apparaît dans le champ de la réflexion, j'ai mon cerveau d'écrivain de science-fiction qui pense à deux choses, positif, négatif. Alors positif, j'imagine des petites machines qui vont aller dans mon cœur, réparer, j'aimerais bien qu'elles aillent dans mes artères, faire le nettoyage et tout, comme ça je pourrais picoler plus, c'est cool. Et puis je pense les trucs négatifs, je me dis, ben... c'est des choses invisibles, donc c'est des choses qui posent des problèmes éthiques, des problèmes moraux, des problèmes politiques. L'invisibilité, on sait depuis très longtemps que c'est un vrai sujet politique et que c'est un vrai pouvoir. Donc d'un seul coup, il pourrait y avoir des choses toutes petites, totalement invisibles, qui pourraient venir me détruire, qui pourraient venir changer mes schémas cérébraux, qui pourraient venir m'espionner chez moi, espionner ce qu'il y a dans mon ordinateur portable ou dans mon téléphone. Donc c'est une technologie qui on voit évidemment très rapidement les effets sur la médecine, des techniques non invasives pour soigner. Pour soigner le cancer, on peut se dire que ça peut avoir des applications de rêve. Et puis on voit aussi, sans réfléchir à 1984, toutes les applications négatives de contrôle, de surveillance que ça pourrait avoir. Donc c'est comme tout dans la technologie, il y a une part de rêve, une part de cauchemar. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'écrivain de science-fiction, je suis plus intéressé par le cauchemar, je ne vais pas mentir.
Oui, moi, je suis assez proche de Thomas Dale là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'antenne parabolique, enfin, on a une double antenne parabolique à la place des oreilles quand on est écrivain de SF. C'est-à-dire qu'on suit ce qui se passe en sciences humaines et on suit ce qui se passe en sciences dures. Et donc, dès qu'un nouveau champ émerge, mais comme le disait la dame, c'est un champ qui est plutôt une sorte de congruence, de domaine de recherche qui a fait émerger cette idée de nanotechnologie, mais... c'est plus caractérisé par une échelle que par réellement un nouveau champ de savoir, hein, si j'ai bien compris. Mais bon, voilà, les médias l'ont porté au pinacle. C'est apparemment un très bon moyen aussi pour les chercheurs de collecter des fonds et d'obtenir des crédits de recherche. Et du coup, on le fait apparaître comme quelque chose de très nouveau. Donc, je m'y suis intéressé, mais de façon, je dois le dire, assez modeste, pas plus que ça. Mais à chaque fois, moi, ce qui m'interroge, c'est de me dire... pourquoi ce champ de recherche émerge? Qu'est-ce qu'il y a derrière conceptuellement qui pousse ce champ de recherche à apparaître? Et ensuite, comme Thomas le disait, quelle est la façon dont les pouvoirs en place, c'est-à-dire essentiellement nous, des pouvoirs gouvernementaux, médiatiques et commerciaux, vont pouvoir s'accaparer ces technologies-là pour accroître la façon dont ils nous manipulent? Moi, sur les nanos, ce qui me frappe, c'est que jusqu'ici, en tout cas, tout le XXe siècle a été, et toute la société industrielle a été portée par l'idée de travailler sur des grands volumes, sur des grandes masses, de travailler sur des choses à taille inhumaine, mais je dirais vers le haut, vers la grandeur. C'est-à-dire aller sur la Lune, travailler sur des énormes mines de cuivre, mettre en place des chirurgies monstrueuses, faire des barrages comme le barrage des Trois Gorges en Chine. Enfin, travailler sur les choses qui dépassaient l'homme et sur lesquelles on avait la fierté de manipuler du volume, j'ai envie de dire. Et puis là, tout d'un coup, il y a une inversion. Il y a ce fameux truc de Richard Feynman là, qui dit qu'il y a de la place vers le bas et on va travailler vers le bas, c'est-à-dire on va travailler vers l'infiniment petit. Et je me dis, psychologiquement, intellectuellement, moi, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que plus la société devient panoptique, c'est-à-dire plus on a des moyens de recherche et de surveillance des gens, plus on a des moyens optiques pour voir ce qui ne devrait pas être vu, plus paradoxalement, on a envie de travailler sur des modes de manipulation qui sont invisibles, qui sont intouchables, qui ne sont pas à échelle humaine. C'est-à-dire que le problème que posent les nanos, c'est qu'aucune personne existante n'est capable de voir ce qui se passe, puisqu'à, je veux dire, un millionième de millimètre, voilà, c'est en dehors de toute capacité de captation, sauf si vous avez les machines pour. Donc si vous n'avez pas les machines, vous êtes un être humain, on vous dépossède entièrement de la capacité d'agir sur le monde. Alors que la plupart des technologies jusqu'ici, comme la voiture, je prends n'importe quoi, mais je prends la voiture par exemple, bah c'est à taille humaine, un volant c'est à taille humaine, une porte c'est à taille humaine, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser avec vos mains, avec votre regard, avec vos pieds, etc. Et là on arrive à un stade où au contraire on dépossède complètement ceux qui ne sont pas scientifiques de la capacité à agir et à contrer éventuellement les faits de ces... Donc c'est une nouvelle forme de pouvoir qui utilise effectivement un pouvoir quasi magique hein, de l'invisible. Et je trouve intéressant qu'on développe ces technologies maintenant, au moment où l'hypervisibilité est, je dirais, le paradigme de dominant. Donc il y a une sorte d'effet comme ça contrebalancé. Après, sur l'aspect politique, évidemment, quand on regarde ce qui se passe, bon, moi je suis très intéressé par exemple par le neuromarketing. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire la façon dont les gens en marketing, après avoir manipulé la vision, l'audition, l'odeur, vous savez, avec les chéquiers qui ont des odeurs, on manipulait les couleurs, on manipulait l'audition, on manipulait les formes. Et puis, on arrive à un moment donné où on se dit, mais pourquoi se fatiguer à essayer d'interagir sur le consommateur par les objets? Pourquoi ne pas travailler directement sur la pensée ou sur la neurologie? Et ils travaillent sur des modes, des systèmes comme ça de lecture directe. Bon, donc ça, ouais, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et ça montre que bah, les formes de pouvoir qui sont à l'œuvre derrière le projet scientifique et derrière ceux qui sont là pour nous vendre des choses, et ben essayent de trouver une nouvelle mode. Et ce nouveau mode, il me semble que c'est les nanotechnologies. Donc à suivre de très près pour nous, quoi. À suivre de très près.
Alors, juste pour corriger un peu, parce que vous semblez comprendre que ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans les nanosciences. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit. Il n'y a pas vraiment de nouvelles sciences. Mais il y a des objets nouveaux et il y a eu une révolution à ce moment-là qui est née du fait que nous avons acquis de nouveaux outils de caractérisation. Alors, vous parlez de pouvoir et de manipulation. En fait, ces outils ne nous permettent pas de maîtriser la matière, mais de la voir, de l'étudier et de comprendre ce qui est où, qu'est-ce qui se passe à des échelles très petites. On faisait déjà ça avant. En chimie en particulier et en biologie, en purifiant, enfin quand on synthétise des nouvelles molécules hein, qu'on fait depuis très longtemps, par exemple par la pharmacie, on peut les étudier et savoir quel atome est où. On le faisait en cristallographie ou par des méthodes de caractérisation chimique, et on pouvait le faire parce que on avait, par exemple, dans un bol, on avait des milliards de molécules toutes identiques. C'est en purifiant des molécules qui étaient toutes identiques qu'on arrivait à faire, par des tas de techniques, savoir quel atome était où sur la molécule. Pour les objets nano, qui existent depuis très longtemps, parce qu'on trouve des nanoparticules, par exemple, c'est bien connu, ce sont des nanoparticules de métal, par exemple, qui font la coloration dans les verres des cathédrales, ou bien il semble que les sabres de Damas, les célèbres sabres damassés, étaient recuits d'une certaine façon, et justement, ça a créé des nanoparticules, certains ont même vu des nanofils de carbone, des nanotubes de carbone à l'intérieur de ces acier. Donc, le fait d'utiliser ces objets nano existe depuis très longtemps. Il y a même des momies dont on a retrouvé que dans leurs cheveux, elles avaient des nanoparticules de sulfure de plomb sur la surface et qui étaient utilisées comme colorant noir, parce que ça fait un noir très fort. Donc, les vieilles princesses qui voulaient cacher leurs cheveux blancs, elles utilisaient des nanoparticules de sulfure de plomb. Donc, ces objets, on ne pouvait pas les étudier de la même façon parce que ils sont petits, mais pas si petits que ça, et du coup, ils ne sont pas tous pareils. Et comme ils ne sont pas tous pareils, et bien les méthodes qu'on utilisait autrefois en chimie ne sont pas du tout opérantes sur ces objets-là. Donc, il faut vraiment les regarder un par un, et pour ça, il faut des microscopes. Et c'est ce que je vous disais, c'est ces machines très très grosses qu'on utilise. On utilise des machines très 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 grandes pour regarder un objet à la fois. mais on ne le manipule pas vraiment. On peut le regarder, lui faire des choses et tout, mais après, on ne peut pas le ressortir et en faire quelque chose. C'est juste, on manipule, on crée des choses et ensuite, on les met dans le microscope pour voir comment ça marche. D'accord ? Et du coup, avec ça, on peut travailler sur la chimie d'objets un peu plus grands. Donc, ce sont des nouveaux outils maintenant pour des applications qui sont parfois proches ou parfois loin. Moi, je travaille en recherche fondamentale, donc les applications sont assez loin, mais on cherche quand même à créer des objets qui ont une fonction. Et ce sont donc des nouveaux objets sur lesquels on ne pouvait pas travailler avant parce qu'on ne savait juste pas du tout à quoi ça ressemblait. Donc, on travaillait dans le noir. Et maintenant, on travaille avec des outils qui nous permettent de les voir. Et ça nous donne de nouveaux espoirs pour des tas d'applications. Donc, chez moi, je travaille sur les nouvelles technologies de l'énergie en particulier. Et donc, c'est des outils qui sont vraiment intéressants pour des choses qu'on ne savait pas du tout résoudre avant.
Mais du coup, moi, j'ai une question parce que, bon, enfin, nous, on est des Béotiens, on est des... En science-fiction, moi je dis toujours, on est des bâtards, quoi. C'est-à-dire qu'on étudie superficiellement beaucoup de champs et puis on essaie ensuite d'en faire quelque chose sur un plan imaginatif. Moi, de certaines choses que j'ai lues, on aurait la capacité, par exemple, d'interagir à l'échelle de la synapse ou même du neurone, ce qui est très très petit. Et apparemment, quand on parle de Clinatech, par exemple, le laboratoire là, qui s'est monté à Grenoble, il y aurait des tentatives pour réaliser ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant par des électrodes implantées à travers le cerveau pour, par exemple, bloquer la maladie de Parkinson ou en tout cas le tremblement de la maladie de Parkinson, de travailler à une échelle nanométrique sur les neurones ou les synapses et de stimuler certaines zones ou d'inhiber certaines zones du cerveau. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est encore une façon de vendre des crédits de recherche ou c'est quoi le...
Alors, d'abord, je ne fais pas partie de Clinatech, donc je ne connais pas exactement ce qu'ils font. Je vous ai dit, les nanosciences, c'est très, très grand. Du coup, c'est difficile de discuter de ce que font mes collègues. Cependant, si ce que je peux imaginer de ce qu'ils font, c'est que si on peut le faire avec... si on peut arriver à exciter des zones qui sont endormies du cerveau, grâce à des électrodes qui font quelques fractions de millimètres, on peut assez vite, assez facilement imaginer de le faire de façon équivalente avec des électrodes plus petites et de façon moins invasive. Parce que je ne sais pas si vous avez vu comment ça se passe la pose des électrodes pour ces personnes-là. Et aussi l'effet fantastique que ça fait sur eux. C'est-à-dire que c'est vraiment des zones du cerveau qui sont sous-stimulées. Et ça fait un effet extrêmement fort sur le corps, alors qu'il manque juste des petites impulsions électriques. Et en arrivant à renvoyer, à refaire cette stimulation électrique de façon artificielle, on arrive à les restimuler. Donc, je veux dire, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire une chose ou à faire une autre. C'est juste qu'on rend la main à la personne sur une partie de son cerveau qu'elle n'avait plus. C'est très différent que de... c'est d'essayer de combler un manque. C'est très différent que d'ajouter une nouvelle capacité. Là, y a une grosse marche qui est très facile en science-fiction et très difficile dès que vous enlevez la fiction. Mais on peut imaginer qu'effectivement, en passant à des nanotechnologies, alors qu'ils vont sûrement plutôt être micro que nano, mais bon, quand vous faites des microtechnologies, c'est difficile d'avoir des sous, donc vous faites un 900 nanomètres, et vous êtes dans le dessous du micron, et vous pouvez vous faire financer pour faire les électrodes qui vont peut-être soigner les prochains parkinsoniens.
Il y a une idée qui est assez récurrente en science-fiction quand même sur les nanotechnologies, ce sont les nanorobots autoréplicants.
Oui, alors ça, oui bon, alors.
Oui.
Alors
on veut, oui.
Ça, c'est fantastique pour faire un roman, mais c'est juste des nanorobots autorépliquants, ça existe, ça s'appelle des bactéries. Il y a aussi d'autres nanorobots qui ne sont pas autorépliquants et qui savent utiliser des robots beaucoup plus grands pour se répliquer eux-mêmes, ça s'appelle des virus. Donc je parie que peut-être 10% d'entre vous en a plein son mouchoir. Et ces objets-là, ils existent et ils sont très 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 forts.
Voilà. Non, c'est pas des
mais
robots parce
que
c'est pas des robots. Un robot, le sens même d'un robot, c'est que c'est un esclave.
Alors,
le virus, c'est tout sauf notre esclave.
Oui, absolument. Alors, un robot qui s'auto-réplique. Déjà, un robot, disons des nano-objets qu'on peut mettre dans des gens et qui vont faire de la thérapie, ça existe, mais ça peut pas s'appeler un nano-robot. surtout pas intelligent. Je veux dire, s'il y a quelque chose d'intelligent dans cet objet, c'est la personne qui l'a conçu. Et j'ai travaillé sur ce type d'objet il y a une dizaine d'années, puis je suis un peu ce qui se passe dans ce domaine. Ça avance vraiment pas très vite, et le but de l'opération, c'est plutôt de faire un objet qui est qui va être plutôt une enveloppe avec une capacité à se coller tout seul. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de mettre dessus, c'est des adresses, hein, mais l'objet lui-même ne fait rien, il est juste adressé. Et après, en plus, on essaye de mettre de la colle sur l'enveloppe, telle que la colle ait des capacités à s'ouvrir dans certains endroits de la cellule. Mais c'est la cellule qui va emmener l'enveloppe au bon endroit. L'enveloppe elle-même, elle fait rien. Donc l'idée de robot, je pense qu'elle est très très mal placée. Mais par contre, elle est très porteuse en science-fiction, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment... Il faut pas confondre, là, on est vraiment dans... Voilà.
Donc il n'y a pas de nanomachine, il n'y a pas de nanorobot en fait, aujourd'hui quoi, c'est pas...
Voilà, et je connais quelqu'un qui essaye de faire des nanomachines et des nanorobots, j'ai entendu hier faire une conférence à Bordeaux, et il essaye de faire des engrenages. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, et pour l'instant... il arrive à faire des choses, mais franchement c'est incroyable, il avance encore sur ce sujet-là. Donc, il fait des molécules qui ressemblent à des engrenages. C'est très joli. Et il fait aussi des nano-engrenages découpés par la méthode, comme la même méthode dont on fait les puces les puces de vos téléphones portables, hein, par des découpes très fines avec des faisceaux à électrons dans des grosses machines. Donc, on arrive à les faire un par un, hein, ces objets. Ça prend peut-être 2-3 mois à une personne d'arriver à faire un petit objet, à vérifier qu'il l'a bien fait. Et pour l'instant, il a encore un problème, c'est qu'il n'arrive pas à faire avoir un objet, à faire un engrenage entre la taille de, on va dire, 5 nanomètres et 15 nanomètres. Là, il lui manque le dernier engrenage. Mais, donc voilà, il y a des gens qui font ce genre de choses, mais s'ils le font une fois, ça va coûter extrêmement cher et ça restera à l'intérieur d'une grosse machine. Et de toute façon, ça ne peut en aucun cas être autorépliquant, au contraire.
Enfin, en même temps, dans l'idée d'autorépliquant, on a quand même cette idée simple en fait, de réduire des usines qu'on a à une échelle de plus en plus petite. Jusqu'à avoir exactement comme les usines de voitures aujourd'hui. Il y a des camions qui sont fabriqués de A à Z. En gros, il y a un opérateur qui amène le camion avec les châssis et qui se gare à une entrée de l'usine. Et en fait, le camion sort complètement fait, avec déjà une partie d'essence, un peu d'essence dans le réservoir. Il y a juste un gars qui monte dedans. Donc, il y a cette idée simplement de miniaturisation. Mais donc, on est toujours très loin. Donc, à ce que je comprends, malheureusement, quand dans le jour où la Terre s'arrêta, dans la version moderne, avec ce magnifique virus nanotechnologique qui détruit l'humanité ou autre, d'accord, on appelle nano juste pour une question de fantasme pour l'instant, mais on est extrêmement loin, on est sur quelque chose d'assez... Est-ce qu'il y a, ce qu'il y a derrière ma question, c'est est-ce que d'une manière ou d'une autre, il y a un changement de paradigme en passant à l'échelle nano ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fondamentalement change?
Oui, il y a des choses très nouvelles. Et ce pourquoi ce sont des outils très intéressants, c'est que il y a une physique et une chimie nouvelles à cette échelle-là. Alors, pour comment l'expliquer? Peut-être le plus simple, c'est... ce qu'on connaît, c'est le monde macroscopique. Donc, on sait que quand on lâche un verre, il tombe. Et puis, que quelque chose, quand on met quelque chose de chaud en contact avec quelque chose de froid, la chaleur passe à travers, etc. Et on sait aussi que quand on passe à l'échelle quantique, les choses deviennent très différentes et qu'il y a une certaine énergie, même quand un objet est complètement reposé, il a quand même une énergie, donc d'une certaine façon il bouge quand même s'il est à son état de repos. On sait qu'un objet ne peut pas se mettre dans n'importe quel état, etc. Donc ça a été bien étudié sur des atomes et des molécules. Donc ça, c'est des objets qui font plutôt de la taille d'un angstrom, c'est-à-dire un dixième de nanomètre. Mais les objets qui sont de la taille de 1 à 10 nanomètres, typiquement, ils contiennent quelques dizaines ou quelques centaines, voire quelques milliers d'atomes. Et donc, dans le monde macroscopique, ce qui se passe, c'est que nous sommes constitués de tellement de milliards d'atomes qu'il y a un effet de moyenne très fort qui fait que les effets quantiques sont effacés. Par contre, lorsque vous avez seulement une centaine d'atomes ou un millier d'atomes, vous ne pouvez plus effacer vraiment. C'est-à-dire, Si vous imaginiez sur l'écran, là, un milliard de points rose et bleu, aléatoirement rose et bleu, vous verriez que du violet. Hein, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait du cinéma, en faisant des points, et vous en avez plein, et comme s'il y a suffisamment de points, vous ne voyez plus la différence. Par contre, si vous mettez 1000 points, là, rose et bleu, ben vous n'allez pas voir du violet, vous allez voir des moirures roses et bleues, des choses éventuellement qui se déplacent. Et ben c'est ça qui se passe à l'échelle nano. Vous êtes quelque part intermédiaire entre l'échelle quantique, l'échelle de la molécule, donc vous avez des propriétés qui sont celles de la molécule, et en même temps, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on peut toucher, pas vraiment, mais qu'on peut voir avec un microscope, qui peut tomber, qui peut interagir avec, qui ressemble déjà à quelque chose de gros. Hein, et du coup, et parfois, dans le cas d'un nanotube de carbone, par exemple, le nanotube de carbone, il fait un nanomètre dans le diamètre, mais par contre, il fait un micron de long. Et un micron, c'est un objet qui est grand comme une cellule. Donc, c'est quelque chose qu'on peut manipuler. Hein. Et du coup, on peut faire des choses avec... On peut manipuler avec des machines ou utiliser des méthodes de dépôt et de contact qui sont comme pour des choses grosses, mais juste un peu réduites. Et sur des objets qui eux-mêmes sont des molécules. Voilà. Ça, c'est très, très, très nouveau. Et en fait, c'est que très partiellement exploré. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'on peut faire avec. On peut faire des tas de choses, mais... C'est que partiellement exploré.
Bien plein de questions. Je suis un peu déçu, mais...
mais il ne faut pas. De toute façon, moi, je ne comprends qu'une toute petite partie de ce qu'on peut faire. C'est tellement nouveau, justement, qu'on a un peu exploré le dessus. Puis il y a des choses qu'on cherche, parce qu'on les cherchait déjà avant, et puis on tire un fil rouge, et on s'avance, mais on va peut-être trouver des nouveaux champs qui seront plus... plus porteur de rêve ou avec des choses plus fortes. Mais bon, pour l'instant, il faut bien voir que les limitations, c'est que l'autoréplication, ça c'est clair que le vivant a réussi à le faire et il est tout seul à le faire. Et je pense que plusieurs générations mourront avant qu'on dépasse cette chose-là. Mais par contre, on peut faire d'autres choses qui vont peut-être révolutionner notre quotidien de façon plus douce, comme par exemple les SMS qui ont une forme de révolution sociale, mais dont on pourrait pas vraiment dire que c'est, enfin, ça fait pas tellement rêver, quoi.
Bah oui, hein.
J'avais une question sur une application possible. Je me demandais, est-ce qu'il est possible de faire des toutes petites particules, donc pas robotiques, mais juste des particules qui peuvent se fixer sur un certain type de cellules et donc servir dans la pharmaceutique ou sur le cancer ou pour la radiothérapie
Alors, plein de gens rêvent de faire ça. Il y en a qui y arrivent relativement bien. Alors, tant que vous avez des cellules en culture et que vous mettez vos particules, alors là, plein de gens ont réussi. Et après, quand vous passez dans une souris, déjà un peu moins de gens ont réussi. Et après, ceux qui ont réussi dans un modèle de souris, ensuite, il faut savoir si nous, ensemble, premièrement, nous les autorisons à faire dans l'humain. Bon, en général, quand il s'agit de traiter du cancer, on a plutôt envie de dire qu'effectivement, ça serait une bonne idée. Il faut traiter des maladies graves. Donc, on est prêt à les autoriser. Mais il ne s'agit pas seulement de les autoriser, mais aussi de leur faire un chèque. Et le chèque est très gros, donc du coup, voilà, ça avance pas vite parce que dès qu'on se rapproche de l'humain, ben nous on veut très peu de risques dans les nouveaux médicaments, et très peu de risques, ça veut dire beaucoup d'essais avant, et ça veut dire aussi qu'on se prive peut-être d'avoir des médicaments efficaces à courte durée parce qu'on veut être sûr, et du coup, ça sera dans plus longtemps.
Vous voulez ajouter quelque chose? Bah, ma foi, on va prendre des questions venant de là-bas. Oui. Oui.
Je voulais juste dire une chose, c'est que la première personne qui a eu l'idée des robots autoréplicants, des nanorobots autoréplicants, c'est un scientifique. C'est Eric Drexler, dans une sorte de bouquin fameux. Bon, c'est une sorte de père du transhumanisme, hein, parmi d'autres. Donc c'était il y a un peu plus de 25 ans, dans un bouquin qui s'appelait « Engines of Creation ». Donc pour le coup, ce n'était pas une idée venant de la science-fiction, mais de quelqu'un se disant scientifique à Stanford. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Parce que De fait, c'est un scientifique qui a eu cette idée en premier et qui l'a mis en scène avec en plus la fameuse machine à viande, hein, pour faire de la viande à partir de rien, qui me rappelait l'arbre à côtelettes de Rudy Rocker dans Maître de l'espace et du temps. Donc voilà, donc c'est un scientifique. Alors qu'en pensez-vous? Parce que pour le coup, effectivement, il est américain, mais il l'a réellement écrit et ça a été un culte.
Alors, c'est pas un scientifique, c'est Eric Drexler. Donc, voilà. Premièrement, et ensuite, Drexler est aussi transhumaniste. Alors après, chaque scientifique peut avoir ses propres envies, ses propres croyances, éventuellement lire beaucoup de science-fiction, avoir envie d'en écrire soi-même. Et chaque scientifique peut avoir aussi envie de croire très fort à ce qu'il fait et projeter ce qu'il fait loin de... Voilà, hein, vous savez tous, hein, les courbes de la disparition du pétrole et de l'augmentation de la population humaine. Ben vous avez la courbe sur la consommation du pétrole ou l'augmentation de la... Et puis on a les points jusqu'à 2012. Puis après, vous pouvez tirer comme ça sur 3 ans ou sur 50 ans ou sur 350 ans. Voilà, hein. Donc Drexler, il a tiré très, 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 très loin la courbe. Mais je crois qu'il en avait envie. Je veux dire, c'est une conviction et un désir profond qu'il a de transhumanisme. D'accord ? Le transhumanisme, c'est pas tellement répandu en France, mais aux États-Unis, il y a une vraie communauté. Et je pense qu'il était aussi porté par ça. Voilà. Bon, ceci dit, il est très clair que aucun scientifique ne croit en aucun mot de ce. Enfin, il y a des scientifiques aussi qui racontent un peu des choses qui vont au-delà de ce qu'ils devraient éthiquement dire, quoi.
Il devient quoi d'ailleurs? Mais bon, il continue à mener ses recherches ou pas?
Je ne sais pas. Non. Je ne l'ai jamais rencontré dans aucun colloque.
D'accord. Il aurait fallu l'inviter peut-être, hein, ça aurait été sympa.
En même temps, c'est assez logique, mais là encore, je demande, parce que la question que je me posais tout à l'heure, c'est qu'en général, pour réussir à avoir des budgets, à ouvrir des champs de recherche, etc., quand on veut être financé, il y a quand même toujours un espèce de jeu où on vend, non pas une recherche fondamentale ou simplement une connaissance, on va aussi vendre des applications, et donc on va porter très très loin sur un espoir. Donc cette logique-là, elle est relativement... Enfin, c'est relativement logique de faire ça, et c'est vrai quand on commence à parler de manipuler les molécules elles-mêmes comme objet, bah, forcément, il n'y a pas un gros saut imaginatif pour imaginer qu'on va transmuter une matière en une autre, qu'on va être capable de créer avec les molécules de l'air certaines matières. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me vient naturellement en tant que béotien, lecteur de SF, qui a envie d'y croire. Mais je me posais vraiment la question tout à l'heure. J'ai déjà eu moitié la réponse, mais comment on fait rêver pour faire financer sa recherche nanotechnologique? Est-ce qu'on est sur la miniaturisation, simplement, ou est-ce... Parce que j'entendais bien tout à l'heure cette idée, on va pouvoir peindre les murs, etc. Donc c'est quelque part une matérialisation de la virtualisation du monde. C'est-à-dire, je peux changer mon avatar sur Internet, bah, plus tard je vais être capable de le faire dans ma propre maison. C'est-à-dire que ce sera plus simplement sur mon écran, ce sera chez moi. Dans la SF en général, les objets nanotechnologiques qu'on nous vend sont souvent des choses qui peuvent changer de forme sans qu'on ait rien, sans justement, on se débarrasse encore plus des boulons. Quand on ouvre l'objet, ben on voit rien, il n'y a plus de moteur caché en dessous, ça peut être un objet. Et je me disais, en ce moment là, concrètement, qu'est-ce qu'on vend comme rêve pour se faire financer?
Alors ça dépend des périodes et ça dépend des pays. Il y a une période effectivement, surtout aux États-Unis, où il y a eu une vente de rêves très très, très forte et assez déplorable, enfin de mon point de vue. Alors après, ça dépend des points de vue, mais qui était effectivement la période Drexler, ça correspond tout à fait bien. Et c'est dû au fait que le financement de la recherche américaine est extrêmement compétitif et basé sur vraiment sur cette question de vendre ce qu'on fait. Enfin, c'est-à-dire que si on n'a pas de projet, on ne peut rien faire. En France, à cette époque-là, ce n'était pas du tout le cas. Et sur les 15 dernières années, il y a eu un retournement complet de la politique de financement des laboratoires en Europe, depuis un système où on avait un financement qui tombait chaque année pour chaque personne. Donc après, on était responsable de faire quelque chose de bien avec. Jusqu'à maintenant, où on a son salaire payé et guère plus, en général même peut-être moins, et on doit financer par des appels d'offres tout le reste. Du coup, on vend les recherches qu'on fait, et ça, ce qu'on va mettre dedans, ça va dépendre de qui va le lire. Du coup, nous, on est beaucoup lus par nos pairs, et du coup, il faut que ça ait l'air raisonnablement faisable. et raisonnablement nouveau. Hein, mais raisonnablement nouveau, en général, nous, on s'arrête à une échéance de 5, 10, 15 ans de technologie. Alors, du coup, ça ne fait pas beaucoup rêver, mais on essaye quand même de montrer qu'on, qu'on propose des solutions pour des objets qu'on peut imaginer qui sont vraiment différents ou bien alors qui répondent à des problèmes d'aujourd'hui, alors ceux que, dont vous ne parlez pas forcément parce que ce n'est pas très vendeur, mais sur des problèmes de très haute pollution par exemple ou des problèmes comme le nettoyage, la purification de l'eau, des questions comme ça qui sont des vrais problèmes industriels.
Mais on parle de membrane osmotique, nanotechnologie.
Oui, ouais. Des choses comme ça, ou bien du nettoyage avec des nanoparticules de dioxyde de titane qui captent la lumière du soleil et ça les rend très réactives et du coup elles catalysent la destruction des polluants dans l'eau. C'est une autre technologie qui est développée en ce moment. Voilà, donc c'est plutôt des objectifs de ce genre sur lesquels on parle aussi à des politiques qui, eux, ont des objectifs industriels. Donc il faut qu'on leur vende des choses qui vont nourrir le tissu industriel qui emploie monsieur et madame tout le monde. Hein. Ça ne fait pas du tout rêver parce que ce n'est pas des auteurs de science-fiction ni des lecteurs de science-fiction qui lisent nos projets.
Bonsoir, excusez-moi, moi j'aurais une question. Je m'excuse par avance si jamais je fais offense à votre expertise, parce que moi je suis plutôt novice dans le domaine, mais je m'intéresse à d'assez près aux nanotechnologies. Et si on consulte quand même tout ce qui va être publication internationale, qu'elle soit scientifique ou institutionnelle, la recherche théorique est quand même très active, on est quand même très proche de la recherche appliquée. On est aussi très proche de projets d'innovation avec des lancements de produits qui sont à base de nanotechnologies, de nanomatériaux, de nanoparticules ou d'autres matériaux qui seraient micronisés mais pas forcément à l'échelle nano. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain décalage entre, sans vouloir créer de polémique, enfin un certain décalage entre ce que vous nous dites. Les nanos sont très éloignés alors que, enfin, quand on regarde quand même ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, elles sont déjà là au final.
Oui, il y a des tas d'objets qui sont déjà dans le commerce. Alors, les objets qui contiennent des nanoparticules et des nano-objets qui sont dans le commerce, les premiers, alors c'est soit ceux qui vendent du rêve, donc ça va être du luxe, hein, parce que ça, c'est très facile à vendre, comme des vélos de sport. On vous vend le vélo qui va être vachement moins, plus léger que votre voisin, donc vous allez gagner, vous allez avoir le truc, et moi, je le vaux bien. Du coup, ça se vend, parce que ça fait forcément des objets chers, hein, c'est des nouvelles technologies, ça va être des objets qui ont une fonction qui est très facile à atteindre, comme par exemple tuer, sauver les gens, c'est très difficile à faire, mais tuer, c'est facile. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de tuer les gens, mais tuer nos ennemis biologiques, par exemple les bactéries. Donc, c'est pour ça que sur certains ordinateurs portables, vous avez un petit symbole marqué AG+, hein, donc c'est des nanoparticules d'argent qui sont des antibactériens. Donc c'est une nouvelle classe d'antibactériens qui est utilisée. Alors parfois pour des bonnes choses et parfois pour des mauvaises choses. Je trouve que les premières applications de ces objets, elles sont relativement lamentables, c'est-à-dire c'est pour mettre sur votre clavier, comme ça vous n'avez pas de bactéries sur votre clavier, comme si vous ne pouviez pas le nettoyer. Et puis c'est sur les chaussettes, comme ça les chaussettes ne vous sentiront pas mauvais. Mon avis, c'est que le savon fait bien l'affaire. Voilà. Mais ceci dit, c'est vrai que ces nanoparticules d'argent, le but intéressant de ces nouveaux antibactériens, c'est plutôt à l'hôpital, par exemple. Et vous n'allez pas vendre votre produit à l'hôpital directement. Hein, c'est pas possible. Une entreprise, elle ne peut pas commencer directement par vendre à l'hôpital. Elle doit faire une preuve de concept sur d'autres choses. Et donc, pendant qu'elle fait cette preuve de concept, elle doit gagner de l'argent. Et donc, du coup, elle fait des produits qui, à mon avis, ne servent à rien et qu'il faudra bien, bien vite enlever du commerce. Sur d'autres aspects, par exemple, c'est sûr que les nanotubes de carbone dans les vélos, bon, bah, c'est joli, mais... voilà, on voit bien que c'est quand même moyennement utile. Là où les gens qui font ça, eux, ils rêvent de faire des avions. Et ces avions-là, s'ils sont vraiment plus légers, ils cracheront moins de pétrole. Et là, on peut se dire que c'est intéressant. Voilà. Donc, il faut voir aussi que c'est une industrie très très naissante. Et du coup, les applications qui sont sorties aujourd'hui, ce sont, je pense, pas du tout en adéquation avec les espoirs que nous pouvons porter sur d'autres applications qui vont venir dans beaucoup plus de temps, parce qu'il faut beaucoup plus, il faut très très longtemps pour démontrer un usage intéressant.
Ouais, il y avait quelqu'un là-bas, là. Là-bas, là, au bout. Ouais. Ouais, là-bas. Là, il lève là-bas.
Bonjour. Je voulais revenir sur un des premiers trucs que vous avez dit, c'est « Ah, il n'y a qu'une seule personne qui sait de quoi elle parle. » Et moi, je pense qu'il faut pas, il n'y a pas besoin d'être chercheuse au CEA pour savoir de quoi on parle. Parce qu'en fait, sinon, on abdique tout pouvoir de décision sur le monde dans lequel on a envie de vivre si on fait ça. Parce que les chercheurs nous disent « Ah, ben nous, on fait que chercher, on n'utilise pas les applications. » Et alors, qui c'est qui décide des applications ? À un moment donné, moi, j'ai envie d'avoir mot à dire là-dessus, sur c'est quoi ces recherches. Parce que sinon, en fait, on a perdu, quoi. Et M. Lamazo le disait bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur l'échelle de l'invisible, et donc si jamais ces trucs ils sortent et à un moment ils se répandent, bah, on n'aura pas de pouvoir dessus en tant que simple personne. Quoi. Et je suis étonné qu'il n'ait pas été cité l'œuvre de Neil Stephenson qui s'appelle L'âge de diamant, qui est un des meilleurs livres de science-fiction qui m'était donné de lire, qui décrit ce que c'est qu'un monde où il y a des nanotechnologies, et je vous encourage, parce que la liste d'applications sont vraiment... étonnamment grande en tout cas, mais moi ce que j'en ai retenu, c'est qu'il décrit un monde où plus personne n'a faim, parce qu'on peut compiler de la matière et de la bouffe, mais en même temps on peut mourir à n'importe quand, c'est le règne de l'arbitraire. Et moi c'est vraiment un cauchemar en fait ce monde, mais lui il le décrit pas tout à fait comme un cauchemar, en tout cas vraiment je vous encourage ça. Et je suis en tout cas extrêmement pas du tout, enfin je veux dire, quand vous dites ah les nanomachines on est très loin d'un truc utilisable. Mais en fait, il faut voir c'est quoi l'histoire des compilateurs dans l'informatique. C'est qu'à un moment donné, on a eu au début, on avait des programmes qui étaient écrits à la main par les humains, on utilisait des cartes perforées. Avec ça, on a écrit un premier programme qui nous servait à écrire des programmes plus compliqués. Et maintenant, on serait incapable d'écrire des programmes et de créer des processeurs aussi qui sont l'informatique d'aujourd'hui si jamais il n'y avait pas eu ces étapes successives. Donc la première nanomachine, elle servira à créer des nanomachines plus perfectionnés qui serviront à créer des nanomachines plus perfectionnées. Donc moi je crois pas qu'on en soit à 90 ou 150 ans parce que ça peut aller très très vite une fois que ça décolle quoi. En tout cas voilà, après vous nous dites aussi il y a rien de neuf, mais en même temps il y a du neuf. Alors moi on peut tout à fait dire que par exemple il y a des dispositifs nucléaires à l'état naturel sur Terre, sauf que maintenant on a rendu le monde complètement radiotoxique partout. De la même manière, l'amiante, il y en a à l'état naturel dans la roche, et en même temps les poussières nanomicroscopiques d'amiante, c'est toxique pour l'être humain. Et là on est en train de faire la même chose sur les nanocarbones, c'est-à-dire que c'est les molécules qui sont toxiques pour l'être humain, et hop, on va en diffuser partout dans l'environnement avant de se poser la question. Alors là, il y a à un moment donné un nouveau scandale sanitaire qui est sur le point d'émerger, mais on le saura dans 20 ans, parce qu'il faut 20 ans avant que les mésothéliums ça décolle. Moi, je voudrais qu'on... En fait, c'est vraiment ce truc, quoi. La même manière qu'il y avait eu le pseudo-débat public CNDP Nano il y a 2 ans, on répondra la même chose, quoi. Fermons le CEA, fermons Clinatech, fermons Minatech. Ensuite, on pourra débattre de qu'est-ce que c'est que ces technologies, qu'est-ce qu'on veut en faire dans notre... et qu'est-ce qu'on veut faire comme monde ensemble. Voilà.
Alors, c'est un peu difficile de... Il n'y a pas vraiment de questions dans ce que vous avez dit. Du coup, c'est un peu difficile de répondre, forcément. Ce que je peux comprendre de ce que vous dites, c'est qu'il y a une crainte de... Bon, c'est la question que j'ai le plus mieux compris, c'est le fait qu'une nanomachine va être créée pour fabriquer une autre nanomachine qui fabriquera une autre nanomachine de la même façon qu'on a fait avec les programmes. Alors, les programmes, c'est des choses immatérielles. Et les objets nanométriques, c'est des choses matérielles. Donc, il faut... pour manipuler la matière, on ne peut pas le faire de la même façon qu'on manipule de l'information. À un moment, il faut quand même prendre de la matière et en faire quelque chose. Et ça, il n'y a que le vivant qui sait faire ça. Et on ne sait même pas comment il sait le faire. Donc, ça, c'est vraiment très, très... Il y a une très, très grosse marche, là. Voilà.
Mais il faudra lui dire, parce qu'en fait, malheureusement, il est 18h, on peut éventuellement prendre la dernière question qui est là. On va prendre une dernière question, j'aurais juste un mot derrière.
Merci. Bonjour, moi c'est plus une question, on va dire, pour revenir sur l'imaginaire. Ce que j'entends avec le côté de, d'être capable d'étudier au niveau du nano, c'est qu'en fait on se rend compte du pouvoir qu'a la vie par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer sur un autre type de science-fiction, à savoir de laisser d'un côté le cyberpunk, avec le chrome, avec les câbles, se dire que l'homme de demain sera un homme câblé avec un bras cybernétique, et de se dire qu'en fait, plutôt, ce champ de science nous permet plutôt de se dire que demain, on aura un symbiote qui sera capable de purger notre corps, qu'on aura développé des bactéries qui auront été modifiées de manière à pouvoir nous augmenter, etc. Est-ce qu'on n'est pas avec ce champ scientifique, observation sur plutôt une divergence? Parce qu'on n'est pas sur une nouvelle forme de voir la science-fiction.
Sincèrement, je pense que vous avez raison. Je pense que depuis quelques années, il y a un vrai changement de paradigme en science-fiction. Et dans La Maison des Derviches de Ian MacDonald, qui est un bouquin qui vient juste de sortir, il est question de stockage bioinformatique. On stocke de l'information dans l'ADN. Parce que l'ADN est redondant, donc on peut utiliser une partie de l'ADN pour stocker les informations. C'est tout un champ qui a déjà été exploré par Greg Egan et d'autres depuis des années. Et qui ne peut que se développer parce que ces technologies se développent. Et c'est vrai que le cyberpunk, il est mort, hein. Il a été avalé par la science-fiction et il a été digéré. On retrouve des éléments cyberpunk dans la SF, mais maintenant on est déjà au-delà. On est déjà dans le mélange homme-machine. On est vraiment au-delà, dans le minuscule, justement dans les nanotechnologies.
On est dans le biopunk, quoi. C'est...
Oui, dans le biopunk. Ouais.
Ouais, juste un mot pour finir, on doit finir, mais. Je suis complètement d'accord avec ce que disait le garçon là-bas. Moi, ce qui me frappe, c'est voilà, on est complètement dépossédé du pouvoir et de voir ce que font les gens qui travaillent sur la nanotechnologie et de voir les effets de ce qu'ils font. Ce qui n'était pas le cas sur d'autres sciences qu'on subissait jusqu'ici. Donc, ce côté complètement invisible et dans la fabrication et dans le travail et dans les recherches et surtout dans les effets, puisque c'est un niveau invisible, fait que le principe de précaution me paraît à monter de niveau. Quoi, voilà. C'est donc. La méfiance pour nous est accrue, à mon sens.
Merci à tous. Et nous laissons donc la place aux autres entités macroscopiques qui vont venir prendre notre place ici. Thank you.
Translation?
For my
question. Yes, probably. Thanks. Okay. All right. Thanks.
Bonsoir à tous, merci d'être venus. On a le grand plaisir d'accueillir.